Conférence privée par le père Philippe Arimon, le 5 décembre 1987.
Nous avions vu la dernière fois comment, au début d'Apocalypse, Jean a cette vision, Saint Jean, a cette vision sur les sept églises d'Asie, ces églises. Si Jean n'est pas successeur de Pierre, cependant l'Esprit Saint a voulu que Jean demeure en Asie mineure et qu'il ait ces diverses églises. Ce n'est pas nécessairement qu'il les a toutes fondées. Hein. Elles sont ses églises. Les églises dont il se considère en face de Dieu comme responsable. C'est ça qui est assez impressionnant. Au fond, ces églises, c'est presque comme des diocèses. Hein. Ce sont des diocèses, ce qu'on appellerait aujourd'hui des diocèses. Quand on les voit en Asie mineure, c'est assez proche, c'est pas très loin. C'est très beau, parce qu'il suffit de transposer. Dans la lumière de l'Apocalypse, chaque diocèse, c'est l'église autour de telle capitale, autour de telle ville. L'église d'Autun. L'église de Lyon. Et chacune de ces églises reçoit cette correction. C'est, je crois, le lieu principal au point de vue de la révélation, de la correction des églises. Normalement, le théologien ne corrige pas l'église. Il faut être sous le souffle de l'Esprit Saint, comme prophète et prophète des derniers temps, pour pouvoir corriger les églises. Jean ne corrige pas les églises comme Jean, mais en tant qu'il est mu par l'Esprit Saint, qu'il est sous la révélation, il corrige les églises. Alors nous avions vu comment l'église d'Éphèse, c'est l'église, je crois, la première, l'église de Marie, l'église de Jean, de façon très particulière, puisque c'est à Éphèse qu'il y a la construction d'une grande cathédrale, dont il ne reste plus que les ruines, qui est dédiée à Saint Jean. C'est donc bien l'église de Jean. Et puis il y a aussi la maison de Marie, pas loin. On ne sait pas si c'est la maison de Marie, mais on l'appelle la maison de Marie. Et ça reprend du reste aujourd'hui, après toute une série de révélations privées qui inclinent très fort. C'est très curieux, parce qu'il n'y a pas de révélation privée sur Marie à Jérusalem. Il y a des révélations privées sur Marie à Éphèse. Alors vous en prenez ce que vous voulez, mais c'est quand même des révélations privées. Et l'autre jour est passé comme ça. À Saint-Jodard, quelqu'un qui est entièrement consacré à Éphèse. Il me dit, oh Saint Jean, la communauté de Saint Jean a quelque chose à faire avec Éphèse. Vous devriez aller faire un petit couvent à Éphèse, un petit prieuré à Éphèse. Je dis, je demande pas mieux si les Turcs nous acceptent. Je crois qu'on aurait la tête trois fois coupée avant. Mais on ne sait jamais. C'est possible que ça puisse se faire. Vous savez qu'à Éphèse, il y a une église qui est dédiée à Marie. Et l'église est coupée en, du moins, la partie principale, c'est l'église catholique. Et il y a à côté un lieu de culte pour les musulmans. Quand j'ai dit la messe là-bas, la première fois, il y avait des musulmans qui priaient à côté. Et qui faisaient leur purification. Vous voyez, il y a l'eau. Et d'après les révélations privées, Il y a eu le tombeau de Marie, là. Il y a un tombeau qui est là, qui n'a pas été ouvert. Et qui aurait été le lieu où Marie aurait été mise, là. Bon, révélation privée. Donc, sainte dévotion. Éphèse, l'église de Marie. L'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire. Nous avons vu comment elles étaient corrigées surtout par rapport à un certain syncrétisme. C'est ça qui est intéressant à voir. L'église d'Éphèse, il n'y a pas de syncrétisme. Une seule correction, c'est qu'elle a perdu la première ferveur. On voit très bien. Dans une communauté, les premiers frères avaient une ferveur étonnante. Puis après, ça diminue. Forcément, quand ça s'étend, ça diminue. Alors, de temps en temps, il y a des reprises. Il doit y avoir des reprises de ferveur nouvelle. Parce que c'est très difficile de maintenir la ferveur. Vous savez bien ce que dit Saint Jean Climiac, la spiritualité de Mont Sinaï. C'est pour ça que j'aimerais tellement d'aller au Mont Sinaï, pour retrouver Saint Jean Climiac. Mais le Seigneur n'y tient pas, je crois. Alors, Saint Jean Climiac, la spiritualité de Mont Sinaï, l'échelle de perfection. Et Saint Jean Climiac dit cette chose très belle. La ferveur d'un novice, c'est normal. Autrement, il ne serait pas novice. C'est pour ça que je dis la ferveur de tout début, de toute communauté, c'est la ferveur, c'est normal. Et alors, il ajoute, la ferveur d'un vieux moine, ça, c'est la sainteté. Je trouve ça très beau. Autrement dit, la sainteté, c'est la ferveur qui continue. On est toujours dans une attitude de ferveur. Et ça, c'est, je crois, la ferveur, c'est l'amour, c'est la charité qui s'exerce pleinement. Alors le reproche pour l'église d'Éphèse, c'est qu'elle n'a perdu sa première ferveur. Tout le reste est très bien, les œuvres ont très très bien. Et on peut avoir des œuvres très florissantes et perdre la ferveur. On peut être fidèle à la doctrine et perdre la ferveur. La ferveur est quelque chose de plus. Et saint Thomas, quand il parle de la ferveur, vous savez bien comment il la compare, l'eau qui bout. Et l'eau qui bout, on a tous fait l'expérience, c'est que le couvercle se lève. Et l'eau ne peut plus être contenue dans la marmite. C'est l'eau qui dépasse. Eh bien, la ferveur, c'est ça. On est dans l'ordre de la surabondance. Quelque chose qui dépasse les limites. Les limites prudentielles. On est dans la ferveur quand on est au-delà de la prudence. Et ça vient de l'intérieur aussi. C'est pas quelque chose qui s'impose de l'extérieur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui permet cela. Et c'est magnifique, je crois, comme exemple. Ça montre bien ce que c'est que la ferveur. C'est un dépassement de ce que nous avions, nous, bien décidé. Vous voyez, on a un règlement de vie. On s'y tient, il est prudent, c'est beau. Puis, tout d'un coup, le Saint-Esprit fait quelque chose de plus. Alors, il y a un dépassement, quelque chose de plus. C'est ça, la ferveur. Alors, je ne reprends pas la correction des églises, nous avions vu. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que chacune de ces églises est liée à Jésus d'une façon particulière, et je crois qu'on peut dire que chacune de ces églises est liée à l'Esprit-Saint d'une manière particulière. Et donc, chaque fois, on pourrait dire qu'on voit la manière dont un don du Saint-Esprit ne s'exerce plus comme il devrait s'exercer. Vous comprenez que la ferveur, ça relève du don de sagesse. C'est le don de sagesse. C'est la contemplation. Il faut la contemplation pour qu'il y ait la ferveur intérieure. Alors, il y a la dernière église que nous n'avons pas vue, l'église de Philadelphie. Il y a l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit: voici ce que dit le saint, le véridique, celui qui a la clé de David. Alors c'est un dernier regard sur Jésus. Jésus est vu comme celui qui a la clé de David. Donc celui qui est au terme de tous les descendants de David. Après Jésus, c'est fini. La clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Et qui ferme et personne n'ouvrira. Donc celui qui termine la grande promesse faite à David. Et la clé de David, c'est celui qui justement, ce pouvoir merveilleux d'ouvrir et de fermer. Je sais tes œuvres. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce qu'avec ton peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Vous voyez, l'église de Philadelphie, c'est une petite église. Je vous ai raconté quand j'étais à Taïwan pendant les vacances, la rencontre avec cet évêque chinois merveilleux. Je pense toujours à l'église de Philadelphie. Il y a un chinois de la Chine continentale qui s'est réfugié à Formose. Et ce chinois de Chine continentale m'a dit, quand je suis arrivé, j'ai demandé que des religieux puissent venir chez moi. Et puis, j'ai écrit, on ne m'a pas répondu, parce que j'avais dit que j'étais le plus petit diocèse de Formose. Et c'est vrai, je suis le plus petit diocèse de Formose. Alors, on n'a pas voulu se déranger. Alors à ce moment-là, je lui ai dit, mais est-ce que vraiment vous pourriez recevoir des religieux, des religieuses ? Il m'a dit, oh, pour des religieux et des religieuses, je ferai tout ce que je peux. Alors j'ai poussé un tout petit peu l'interrogation, je lui ai dit, mais vraiment, vous avez quelque chose de possible ? Oh oui, il y a 3 presbytères qui sont abandonnés. Et je les ouvrirai tout de suite pour des religieuses. Alors je lui ai dit, et si je vous demandais maintenant ? Alors il m'a regardé, mais il était complètement ahuri. Et c'est vrai. Je dis, mais oui, c'est vrai, parce que je vous le dis. Si je vous demandais maintenant, est-ce qu'on peut venir s'installer chez vous ? Qu'est-ce que vous diriez ? Alors il a ouvert ses bras. Ah, oh, mais j'ouvre tout de suite mes bras, grands ouverts, venez. Et je lui ai dit, mais comment pourrait-il vivre ? Oh, ne vous inquiétez pas. Entre pauvres, on s'entend toujours. Et c'est comme ça qu'on s'est installé là. C'est le jour Saint-Dominique, tu vois, en plus de ça. C'est donc une lumière merveilleuse. Et ils sont là maintenant, les 3. Ils sont avec l'évêque Chen. Notre cher père, Jean-François, ne peut rien dire, puisqu'il a une vénération vis-à-vis de cet évêque chinois. Il a tous les grades de Pékin. Donc il est imbattable. Au point du chinois. Toute la culture chinoise et la langue chinoise, il a tous les grades. Un homme extrêmement cultivé. C'est lui qui a transformé sa cathédrale en une espèce de temple, au point de vue architecture. C'est un temple. Mais au cœur, il y a le tabernacle. Et puis au-dessus, il y a la Vierge Marie, Notre-Dame de la Chine. Et c'est comme une sorte de... Et c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a voulu que ce soit comme ça. Un évêque pauvre, il n'est presque rien. Il n'a pas de voiture, pas d'auto. Il dit, c'est pas la peine, je suis un petit diocèse. Mais il met à la disposition de la communauté, au choix, un de ces trois presbytères, et peut-être les 2 ou 3, si on veut. Chacun le sien. Et je trouve ça très très beau. Parce que tout de suite, ça a été, je suis le plus petit, c'est ça, l'église de Philadelphie. C'est l'église toute petite. Je sais tes œuvres. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut ouvrir. Parce qu'avec ton peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici que je te donne de la synagogue de Satan, de ceux qui se disent juifs. Ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici que je les ferai arriver, et ils se prosterneront devant tes pieds, et reconnaîtront que moi, je t'ai aimé. la dignité de l'église de Philadelphie, c'est qu'elle est aimée. Elle est petite, pauvre. Parce que tu as gardé ma parole de... Parce que tu as gardé ma parole de patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Eh bien, l'Église de Philadelphie a besoin d'être réconfortée. Elle est fidèle. Elle a besoin de se confronter et de se rappeler qu'elle est aimée. Parce que quand on est faible, quand on est petit, quand on est pauvre, on croit qu'on est un petit peu délaissé. L'Église de Philadelphie a besoin d'être réconfortée. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu et ne sortira plus dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom, le nouveau. Qui a des oreilles, entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Je crois que c'est l'Esprit, le don de piété. Philadelphie, c'est la fidélité. Ça, c'est très net. La fidélité dans la petitesse. Il y a l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Le véridique, le prince de la création de Dieu. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. Puisses-tu être froid ou chaud? Ainsi, puisque tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. L'église de Laodicée, c'est la tiédeur. Et Dieu, horreur de la tiédeur. Celui qui n'est ni chaud ni froid. Vous voyez, au fond, la tiédeur prise de cette manière-là, c'est celui qui se regarde tout le temps lui-même, qui se tâte le pouls. Alors, ni chaud ni froid. Voici que je les ferai arriver, se prosterneront devant tes pieds. Et, pardon. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni chaud, ni froid, ni chaud. Puisses-tu être froid ou chaud? Ainsi, puisque tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que c'est toi qui es le malheureux, toi qui es le misérable, le pauvre, l'aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de chez moi de l'or purifié au feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour t'habiller et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, et un collier pour t'enduire les yeux et voir clair. Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et les corrige. Aie donc le zèle et repens-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je dînerai avec lui, et lui avec moi. On voit très bien que c'est l'église de Laodicée qui reçoit la correction la plus terrible. Parce que c'est la tiédeur, l'indifférence. Vous savez bien, c'est insupportable l'indifférence. Celui qui n'est ni chaud ni froid. Alors on a beau le piquer, il ne réagit plus. Il ne sait pas s'il est chrétien ou pas chrétien, il ne sait pas si le Christ existe ou n'existe pas, il ne sait pas si c'est le démon qu'il doit adorer ou Jésus qu'il doit adorer, il ne sait pas, il est entre les deux. Sans doute qu'il fait les deux. Il est tiède. Il n'a plus de conviction. Il n'a pas choisi. Et alors ça, c'est insupportable pour Dieu. C'est très important, vous voyez, de voir ce qui est insupportable pour Dieu. Parce que ça nous fait comprendre ce qu'est Dieu. Ce qui est insupportable pour Dieu, c'est la tiédeur. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Quand on aime, il n'y a rien de plus insupportable que la tiédeur. Quand on n'aime pas, on supporte la tiédeur. Mais quand on aime, il n'y a rien de plus insupportable. Parce que quand on aime, on voudrait que tout le monde soit du feu. Tout le monde brûle. Ainsi, puisque tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Ça arrive de temps en temps que Dieu dit ça. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que c'est toi qui es le miséreux. La richesse matérielle qui cache, qui fait oublier la misère spirituelle. Je n'ai besoin de rien. Quand on dit qu'on a besoin de rien, ça prouve qu'on n'aime pas. Et tu ne sais pas que c'est toi qui es le malheureux, le misérable, le pauvre, l'aveugle, le nu. Donc, Dieu réclame de l'église de Laodicée un peu de lucidité. Comprendre que la richesse matérielle ne signifie rien. Il y a quelque chose d'autre infiniment plus important. C'est la richesse du cœur. C'est la richesse de l'intelligence. On peut être riche matériellement, prétendre qu'on n'a besoin de rien, et être le plus malheureux, le plus misérable, le plus pauvre, le plus aveugle, le plus nu de tous les hommes. Parce que la vraie richesse, c'est l'amour. C'est la seule vraie richesse. C'est d'aimer et d'être aimé. Et quand on vient incapable d'aimer et incapable d'être aimé, alors à ce moment-là, on s'enferme dans les richesses matérielles. Et il y aurait même les richesses de l'intelligence. Celui qui s'enfermerait dans les richesses de l'intelligence, à la place de s'enfermer, puisque la richesse de l'intelligence n'est pas l'amour. La richesse des sciences, avoir le prix Nobel, c'est très bien. C'est ça qui nous donne le ciel. Les richesses de l'intelligence ne suffisent pas. Et on peut très bien se cacher dans ces richesses-là et croire que ces richesses-là vont nous donner le bonheur. Je te confie d'acheter de chez moi de l'or purifié au feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour t'habiller et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, et un collier pour t'enduire les yeux et voir clair. Ça, c'est toute la miséricorde de Dieu. Le conseil vis-à-vis de celui qui est pharisien. Il considère que tout ce qu'il a, ça le suffit, pas besoin d'autre chose. Et Jésus veut le corriger, le purifier, le remettre dans le droit chemin. Donc il n'y en a aucune église qui est rejetée. Toutes sont reprises. Toutes, les sept. Même l'église de Laodicée. Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et les corrige. Toute correction de Dieu est le signe de son amour. Quand Dieu nous traite un tout petit peu durement, ça peut arriver, même dans la vie religieuse, quand Dieu nous traite un tout petit peu durement, c'est le signe de son amour. C'est le signe aussi qu'on ne donne pas assez, c'est sûr. Mais c'est le signe de son amour, c'est que Dieu ne nous lâche pas. Et Dieu nous lâchera le dernier. Nous ne pouvons le lâcher, mais lui ne nous lâche pas. Il nous poursuit toujours. Et il veut que nous arrivions à l'aimer. Et à l'aimer pleinement. Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et les corrige. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc sors de ta tiédeur. Voici que je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre ma voix, si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Et la béatitude qui est exprimée par le repas. C'est très johannique ça. Alors est-ce que c'est l'Apocalypse qui a fait comprendre ça à Jean ? C'est possible. Si l'Apocalypse est écrit avant l'Évangile, et si dans l'évangile de Jean, les repas prennent une belle signification, c'est peut-être à cause de ça. Dans l'Apocalypse, on voit que Dieu nous invite à son repas. Il nous invite à faire que éternellement nous soyons invités à sa table. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi, j'ai été vainqueur et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, correction de cette église. On aurait beaucoup de choses à dire, tu vois, parce que c'est très très riche. Il faut se l'appliquer à soi-même. Parce que l'interprétation de cette église a été extrêmement variée. On a considéré d'abord les sept églises, c'est très bien. Puis on a considéré que les sept églises pouvaient ponctuer tout le pèlerinage de l'église au point de vue du temps. Et donc l'église de Laodicée, c'est l'église qui annonce le dernier jugement, qui annonce le retour du Christ. Et avant, il y a Philadelphie. Alors, on est au point de vue chronologique. Bien, je crois que ces deux interprétations ne sont pas vraies, puisque l'Apocalypse est toujours la lumière de l'éternité à travers le temps. Et donc, la dimension du lieu et du temps est secondaire. C'est un regard de Dieu sur ces sept églises pour nous faire comprendre la plénitude de l'Église. Le chiffre 7 étant justement chiffre parfait, vrai pour l'homme et vrai pour les églises, puisque les églises, c'est les hommes qui cherchent Dieu. Et donc, c'est beaucoup plus une vision sur l'église dans sa perfection, les sept églises. Et voir que cette perfection des églises dépend du contact avec Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que si vous êtes attentif, vous voyez que chaque église a un contact particulier avec Jésus. Toutes n'ont pas le même contact. C'est l'ensemble des sept qui regardent le Christ dans sa gloire et dans sa plénitude de gloire. Chaque église a quelque chose de particulier. Je crois que c'est beaucoup plus ça qui nous est montré. Et par le fait même, ça nous donne une théologie des corrections que l'Esprit Saint fait subir aux églises. C'est l'Esprit Saint qui corrige l'Église, parce que l'Église est conduite par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous fait comprendre quelles sont ses corrections, c'est-à-dire quelles sont les choses qui blessent le cœur de Jésus. Pour nous, c'est toujours très important de savoir qu'est-ce qui blesse le cœur de Jésus, parce que nous ne savons pas très bien. Quelquefois, nous faisons une grande attention sur des choses qui ne blessent pas du tout le cœur de Jésus. Et sur d'autres choses, on ne fait aucune attention, et alors que c'est celle-là qui blesse le cœur de Jésus. Aussi éloigné le ciel de la terre, aussi éloigné, de fait, notre manière de regarder est la manière de regarder Jésus. C'est une des choses très très nettes et très significatives que dans les béatitudes évangéliques, la béatitude du cœur pur, c'est la béatitude des intentions. Ce n'est pas des réalisations. Dieu ne nous rend pas bien heureux parce qu'on réalise telle œuvre. Non, jamais. Mais l'intention avec laquelle on l'a fait, c'est tout à fait différent. Là, il peut y avoir un absolu dans l'ordre de l'amour. Et bien, je crois que les sept églises représentent donc la totalité de l'Église, d'une façon symbolique. Mais la totalité de l'Église. Et donc, chacun d'entre nous, nous sommes alertés par une des églises, suivant du reste que Jésus réclame de nous actuellement. On voit très bien, il y a les églises gardiennes de la doctrine. Des églises qui doivent être entièrement engagées dans une apostolat. Des églises qui doivent garder la contemplation et la solitude. De sorte que je crois que c'est très important de saisir comment ces corrections nous font saisir le cœur blessé de l'agneau et la vulnérabilité du cœur de Jésus. Et on pourrait établir à partir de là ce qu'il faudrait faire, un chemin, un examen de conscience qui ne soit plus les 10 commandements de Dieu, mais qui soit l'examen de conscience du cœur de Jésus. C'est Jésus lui-même qui corrige. Et nous pourrions anticiper notre jugement particulier en regardant la correction de cette église. Je dis ça pour que vous puissiez le faire. Quand vous regardez cette église, ne regardez pas ça à toute vitesse. Non, 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 non. Il y a une richesse étonnante. pourra y revenir dans la mesure où vous-même vous avez un peu développé ça. Et découvert à travers les sept églises les vulnérabilités du cœur de Jésus. Donc ce qu'il faut éviter avant tout si on aime Jésus, on doit éviter avant tout ce qui blesse son cœur. Et ce qui blesse son cœur, c'est justement ce qu'il nous a montré là. Et les églises se sont laissées prendre par cela. Alors, immédiatement après la correction des églises, nous allons entrer maintenant avec le chapitre 4 dans ce qui est proprement l'Apocalypse. Jusque-là, c'était des préambules. Ici, nous allons entrer. Après cela, je vis, et voici une porte ouverte dans le ciel. Vous voyez, toujours la porte. Une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette qui parlait avec moi, disait « Monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. » Donc, on invite Jean à entrer plus loin dans la révélation. Aller plus loin. Monte ici. Et on voit tout de suite, en même temps, le deuxième. Vous avez déjà dit. Et la première fois que j'avais entendu, comme celle d'une trompette qui parlait avec moi, disait « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Il a de la chance, hein, Jean. Si dès que vous arriviez à la chapelle, vous étiez ravi en esprit, ça irait mieux. Pour l'heure d'oraison, ça se passerait plus vite. Et aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'un trône était placé dans le ciel. Alors vous allez avoir la grande vision du ciel. Une vision magnifique. Alors vous pouvez la décrire du reste. On l'a décrite de façon plastique, c'est facile. D'abord, en premier lieu, et voici qu'un trône était placé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Donc il y a le trône. Imaginez ça comme vous voulez, mais il y a un trône. Et sur le trône, quelqu'un qui était assis. Et celui qui était assis était semblable d'aspect à une pierre de jaspe et de sardoine. Donc, celui qui était assis était semblable d'aspect à une pierre de jaspe et de sardoine. Alors tout de suite, je signale l'importance du symbolisme des pierres. C'est pas toujours commode, hein, parce qu'on a un petit peu perdu cette tradition. Symbolise des pierres. Qu'est-ce que ça signifie, telle pierre? Parce que chaque pierre a un symbolisme, selon toute une série de traditions. Et c'est pas commode de trouver la vraie tradition. On pourrait essayer de la rétablir, ça serait intéressant. Et celui qui était assis était semblable d'aspect à une pierre de jaspe et de sardoine. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux, c'est que celui qui est assis sur le trône, il n'a pas de figure. Dieu n'a pas de figure humaine. Hein. Dieu, je ne peux pas me le représenter. Le Christ n'est pas encore là, au sens absolu. Tant que le Christ n'est pas là, le trône, celui qui est quelqu'un, je ne sais pas. Dieu s'est représenté à nous et a pris une figure humaine par le mystère de l'incarnation. Et avant le mystère de l'incarnation, Dieu est Dieu. Il est d'une simplicité absolue et il est pur esprit. Donc il échappe complètement à toute représentation. Et parce qu'il échappe à toute représentation, C'est d'une manière symbolique que je peux suggérer sa présence. Et je suggère sa présence comme une présence de paix. Ça, c'est net. Et alors, pour bien faire comprendre le symbolisme de ces différentes pierres, on voit comment nous est montré par là le mystère de l'absolu de Dieu. Et voici qu'un trône était placé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Et celui qui était assis était semblable d'aspect à une pierre de jaspe et de sardoine. Vous voyez, d'une certaine manière, on exprime mieux le mystère de Dieu par des pierres que par des figures humaines. Et c'est très vrai. Les pierres, quand elles sont prises dans ce qu'elles ont de tout à fait fondamental, expriment un lieu très extraordinaire d'émanation, de couleur. Et alors ces pierres sont prises dans leur aspect virginal, dans leur aspect tout à fait de pureté, prises dans la nature. Ce ne sont pas des pierres travaillées. Vous voyez comme c'est curieux, le symbolisme de l'Eucharistie, c'est la nature travaillée par l'homme. Alors que la Jérusalem céleste et le ciel, ce sont les pierres non travaillées par l'homme. C'est quelque chose de très curieux, ça. Parce que l'Eucharistie est une nourriture. Donc, elle est relative à l'homme. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de ces pierres précieuses qui symbolisent la présence de Dieu, la présence de Jésus au milieu de ces églises, alors à ce moment-là, il faut se servir du symbolisme, puisqu'on est dans la montée et non pas dans la descente. On voit de la signification. Je crois que c'est pour cela qu'il y a une signification très mystérieuse à travers toutes ces pierres. Et voici qu'un trône était placé dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Et celui qui était assis était semblable d'aspect à une pierre de jaspe et de sardoine. Et tout autour du trône, un arc-en-ciel semblable à un aspect d'émeraude. Alors l'arc-en-ciel, on comprend très bien. L'arc-en-ciel, c'est le signe qu'il n'y aura plus de pluie. Ça vient depuis le déluge. Depuis le déluge, Dieu a mis un arc-en-ciel. C'est du reste un arc dans le ciel. C'est très curieux. C'est l'arc dans le ciel. C'est comme un arc. Un arc dans le ciel. Et l'arc traversé, tourné pour montrer que Dieu ne servira plus de l'arc. Il n'y aura plus de guerre. Dieu, ce n'est pas Dieu qui mettra un terme à la fin de notre univers. Moi, je crois que c'est ça la grande signification. Alors qu'il y a eu le déluge. Et Dieu a failli, hein. Faire que tout y passe. Heureusement qu'il y avait Noé. Il devait être tiré d'un bon endroit. Noé est trouvé grâce auprès de Dieu alors. Dieu a tout repris avec Noé. Et autrement, tout le monde y serait passé. Et donc nous ne serions pas là. Ça c'est sûr. C'est Dieu qui a mis une fin, trouvant que c'était suffisant. La bêtise humaine était suffisante. Tandis que maintenant, Dieu laissera la bêtise humaine aller jusqu'au bout de ses bêtises. C'est terrible. Et je crois que c'est quand l'homme aura été le plus loin de ses bêtises, c'est-à-dire que parmi ses bêtises, il fera sauter la planète. Il n'en est pas loin. Alors à ce moment-là, Dieu interviendra. Mais ce n'est pas Dieu qui mettra un terme. Ça, je crois que c'est ce langage qui est montré ici. Et celui qui était assis, bon, et tout autour du trône, un arc-en-ciel semblable à un aspect d'émeraude. Et tout autour du trône, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, habillés de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Alors voyez, de façon plastique, ce que vous pouvez montrer. Le trône. Et autour du trône, un arc-en-ciel. C'est le dieu de la paix. Et tout autour du trône, 24 vieillards. Les 24 vieillards représentent la création, symbolisée par ces 24 vieillards. Donc, par des hommes vénérables, des vieillards. Des hommes qui sont comme les médiateurs entre Dieu et les hommes. Je crois que c'est ça. C'est une médiation. Une médiation de naturelle. C'est pas l'ordre surnaturel, c'est l'ordre naturel. Vous voyez, on voit encore ça dans certains peuplades d'aujourd'hui. C'est que ce sont les anciens qui tiennent chapitre, qui tiennent conseil. Ce sont les anciens qui décident de tout. Et non pas les jeunes. Il faut une civilisation comme la nôtre pour que ce soit les jeunes qui décident de tout. Et non pas les anciens. C'est l'inverse de la sagesse de Dieu, vous voyez. Dans la sagesse de Dieu, les anciens ont cette place très étonnante. Et tout autour du trône, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, habillés de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des voix. Donc, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Les trois aspects qui sortent du trône, c'est les effets de l'Esprit Saint. L'éclair, la voix et le tonnerre. Les trois aspects de l'Esprit Saint qui sont vus de cette manière-là, trois manifestations, les trois appropriations de l'Esprit Saint. Ça revient tout le temps, ça. Et brûlant devant le trône, sept torches de feu qui sont les sept esprits de Dieu. Donc là est montrée la réalité mystérieuse de l'Esprit Saint. Après. Alors vous voyez l'ordre, ça qui me semble très intéressant à saisir, parce que c'est tout un ordre vu dans cette vision, l'ordre du mystère de Dieu. Donc, le trône, quelqu'un, c'est le Père. Tout autour du trône, un arc-en-ciel, semblable à un esprit d'émeraude. Et tout autour, et sur ces trônes, 24 vieillards. Alors les vieillards sont là, sur les trônes. Donc Dieu reconnaît leur pouvoir, leur autorité. Ils sont habillés de vêtements blancs. Le blanc symbolise toujours la victoire de l'amour. En premier lieu. Donc ils sont victorieux, parce qu'ils sont habillés de blanc. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Ils sont victorieux par rapport aux fautes. Et sont victorieux par rapport même aux hommes. Ils sont prêts à combattre. Et du trône sortent des éclairs, des voix et du tonnerre. Et brûlant devant le trône, sept torches de feu qui sont les sept étoiles de Dieu. Point de vue de l'inspiration qui est là. Et devant le trône, comme une mer vitrifiée, semblable à du cristal. Alors quelque chose de très différent ici, qui est peut-être le mystère de Marie, annoncé, le mystère de l'Immaculée Conception, qui tient comme une place unique, et qui est représenté comme une mer vitrifiée, c'est très beau du reste, au point de vue symbolisme. Et devant le trône, comme une mer vitrifiée, semblable à du cristal. Cette mer qui est transformée du dedans et qui est semblable à du cristal. Le devant du trône, comme une mer vitrifiée, semblable à du cristal. Donc, et devant le trône, comme une mer vitrifiée. Et au milieu du trône, on avance. Donc, vous voyez bien. Successivement. Et c'est autour du trône, devant le trône. Et au milieu du trône, et autour du trône, quatre vivants plein Dieu, par devant et par derrière. Alors d'une façon traditionnelle, on voit toujours dans ces quatre vivants les quatre évangélistes. Vous allez voir. Et autour du trône, quatre vivants plein Dieu, par devant et par derrière. Et le premier vivant est semblable à un lion. Le deuxième vivant est semblable à un jeune taureau. Et le troisième vivant a la face comme d'un homme. Et le quatrième vivant est semblable à un aigle qui vole. Et les quatre vivants ont chacun d'eux six ailes. Et tout autour d'eux, et tout autour, et au-dedans, ils sont pleins Dieu. Alors essayons de comprendre ce que ça veut dire. Quand on parle du symbolisme des apôtres, des évangélistes, c'est très bien, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Parce que ce qui est dit de ces quatre vivants ne peut pas s'appliquer entièrement aux évangélistes. Et quatre vivants ont chacun d'eux six ailes, et tout autour d'eux, et au-devant, dedans, ils sont pleins Dieu. Ils n'ont de repos jour et nuit en disant « Saint, Saint, le Seigneur Dieu, le Dieu de Jacob. » Ça ne peut pas être les évangélistes, parce que les évangélistes restent des hommes qui disent quelque chose de très grand, parce qu'ils sont témoins du Christ, mais ils sont témoins du Christ. Tandis que là, il semble bien qu'il y a quelque chose de plus. Il suffit d'écouter. Et au milieu du trône, et autour du trône. Donc c'est à la fois à l'intérieur et autour. Alors essayez d'exprimer ça d'une façon graphique. Absolument pas. Il est au milieu du trône, alors ce qui est au milieu du trône est Dieu. Et ce qui est autour du trône est créature. Vous passez de l'infini au fini, si vous voulez. Ce qui est au plus intime du trône est infini. Et ce qui est autour du trône est fini. Alors je me suis demandé si, de fait, il ne s'agissait pas du Christ. Vous allez tout de suite saisir. Les évangélistes sont les témoins privilégiés du Christ. Ça, c'est sûr. Marc, Matthieu, Luc, Jean sont des témoins privilégiés de Jésus. Puisque ces témoins sont des témoins privilégiés de Jésus, le symbolisme qui exprime tel évangéliste exprime par le fait même ce que l'évangéliste lui-même veut témoigner du Christ. Donc, les quatre vivants symbolise en premier lieu le Christ, en second lieu les évangélistes, mais en premier lieu. Et ils nous font comprendre ce qu'est ce vivant. Ce vivant dépasse tous les autres vivants. Il n'est pas la somme des vivants, mais il a une qualité unique. Et alors pour exprimer cette qualité unique de ce vivant qui est le Christ, vous voyez, on nous montre quatre manières de le regarder. Il y a le lion. Le lion de Juda. On sait. On peut regarder Jésus dans la lumière de toute la grande tradition qui va vers lui. Il est de la race de David. Vous voyez. Et il est pleinement de son peuple. Il est de la race de David. Donc, il y a une vision particulière de Jésus qui est de regarder Jésus comme le lion. Il est le jeune taureau. Et le jeune taureau, qu'est-ce que ça veut dire? Le jeune taureau, c'est la victime par excellence. C'est la victime la plus parfaite. Il est la victime. Et on regarde Jésus dans la lumière de cet aspect victimal. C'est pas du tout la même chose. Puis il a le visage d'homme. En effet, Jésus est l'homme le plus parfait. Et l'aigle, le regard d'aigle, c'est l'aspect contemplatif. L'aigle. L'aigle symbolise l'Esprit Saint. N'oubliez pas ce passage, vous savez, du Théronome, très très beau. Il l'a mené au désert. Et là, sous le vol de l'aigle, Dieu l'a appris à voler sous son peinage, comme les aigles apprennent leurs petits à voler. Alors l'aigle, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire c'est celui qui est entièrement mu par l'Esprit Saint. Jésus est entièrement mu par l'Esprit Saint. Il est fils du Père. Fils bien-aimé, il est sous l'emprise de l'aigle, sous l'emprise de l'Esprit Saint. Celui qui est mu par l'Esprit Saint est enfant de Dieu. Alors vous avez donc là, et ça c'est très très beau, c'est bien les évangélistes, bon ici c'est Jean, c'est ce qui nous intéresse le plus. Ici c'est Luc, alors là on brouille les cartes, Marc et Matthieu. Vous voyez, quelquefois on dit que c'est Marc, le lion, puis Matthieu. Puis quelquefois on dit l'inverse. C'est très curieux. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut mieux choisir. De façon générale, on dit que Matthieu montre que Jésus réalise toutes les prophéties. Donc on montre Jésus réalisant toutes les prophéties. Il suffit de voir du reste le début de Matthieu. Jésus réalise des prophéties. Si Jésus réalise des prophéties, il est plus du côté du lion, de Judas, comme David, celui qui a fait prophétiser. Et Marc montre beaucoup plus, comme on dit, les instantanés. Marc, il montre Jésus dans sa spontanéité, le jeune taureau. Cet animal extraordinairement vivant qui est la meilleure des victimes. Pour être une bonne victime, il faut être très vivant. C'est les victimes que Jésus choisit. Les êtres très vivants. Parce que les êtres qui dorment déjà, vous comprenez, c'est pas la peine de les abattre. Tandis que les êtres très très vivants, alors là, au contraire, ça vaut mieux. C'est le jeune taureau. Alors on voit bien comment, de fait, Matthieu serait plus le lion. Et Marc serait beaucoup plus. Là, j'ai marqué ce qu'on dit souvent traditionnellement. Ça s'est peut-être trompé. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de... Peut très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a les quatre évangiles. Ça, on ne peut pas nier. Il faut dépasser le symbolisme des quatre évangiles et voir au-delà des évangiles le mystère de Jésus. Alors, c'est très beau. Ça fait tout un traité de l'incarnation dans la vision d'Apocalypse qui serait très très beau. De décrire, vous voyez, Jésus dans cette vision quadruple. Le lion, le jeune taureau, le visage d'homme. La distinction extraordinaire de Saint-Luc, le visage d'homme et l'aigle. Et les quatre vivants ont chacun d'eux six ailes. Et tout autour d'eux, ils ont plein Dieu. Et ils n'ont de repos jour et nuit, ils disent « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est, celui qui vient. » Jésus, c'est celui qui vient pour adorer le Père, dans son cœur d'homme. La chose principale, les hommes n'adorent plus. Alors c'est Jésus qui adore. Et vous voyez, ce qui me semble bien être le Christ, c'est qu'il est dit que les quatre vivants, au milieu du trône, les évangélistes ne sont pas au milieu du trône, puisqu'ils ne sont pas Dieu. Au milieu du trône, c'est Dieu. Et donc ça ne peut être que Jésus qui est Dieu. Il est au milieu du trône, il est autour du trône, par son humanité. Donc il touche les deux. Et pour exprimer le mystère de l'incarnation, du Verbe devenu chair, il est au milieu de son, il est autour. Et là, ça donne, sur le mystère de Jésus, une vision très étonnante. Pas du moins, moi, que ça me ravit, cette vision de Jésus. Et quand vous lisez saint Matthieu, voir tout de suite ça. Quand vous lisez saint Marc, alors ça donne une vision d'une richesse de Jésus comme le vivant. L'Apocalypse aime d'appeler Jésus le vivant. Il est le vivant parce qu'il est les quatre vivants. La vie est quadruple, pour être parfaite. Parce que la vie qu'on saisit est liée toujours à la terre, c'est la vie biologique. Donc elle a ses quatre dimensions. Et pour que la vie soit parfaite, elle a ses quatre dimensions. Et Jésus, il est le vivant parfait. Et le vivant qui adore. C'est le vivant parfait qui adore, qui reconnaît sa dépendance totale à l'égard du Créateur. Saint, Saint, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Et chaque fois que les vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour les éternités d'éternité, les 24 vieillards tomberont devant celui qui est assis sur le trône. Vous voyez, le rôle de ces quatre vivants, c'est de donner le rythme de l'adoration aux 24 vieillards. C'est pas les évangélistes, ça ne peut être que le Christ, qui donne le rythme religieux. La nouvelle liturgie, elle vient de Jésus. Et c'est Jésus qui donne lui-même le sens de cette nouvelle liturgie. Et c'est pour ça qu'il est dit ceci. Et chaque fois que les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour l'éternité d'éternité, les 24 vieillards tomberont devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant celui qui vit pour les siècles d'éternité. Ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont existé, qu'elles ont été créées. » Donc il y a une très grande vision du mystère du ciel. Alors, je note avec vous, puisque c'est intéressant, une vision de la très sainte Trinité liée à la création et liée à la recréation de la rédemption. C'est une vision plénière. C'est très étonnant. C'est une vision plénière, imagée, symbolique, mais merveilleuse. Vous avez donc le trône. Le trône est quelqu'un. On va mettre un petit noyau central, qui est le trône, qui exprime ce point de vue premier et fondamental, qui est vraiment le mystère même de Dieu dans sa source, sa toute-puissance est la source d'où vient tout. Et il y a l'arc-en-ciel, donc l'arc-en-ciel qui fait bien le cercle, hein, l'arc-en-ciel complet. L'arc-en-ciel qui est signe de la paix. Donc c'est le lieu, la source de toute paix. Toute paix vient de Dieu, un aspect d'émeraude. Et tout autour du trône, les 24 trônes, tout autour. Alors vous avez les 24. Voici, il a divisé 12 et 12. Hein. Les 24 alors, les 24. 24 vieillards, c'est toute l'humanité. Toute l'humanité représentée par les 24 vieillards. Toute l'humanité, c'est pas seulement l'Église, hein, c'est les 24 vieillards, c'est toute l'humanité. On est vieillard quand on adore Dieu. Faut pas l'oublier. Dès que vous adorez Dieu, vous êtes un vieillard infiniment respectable. Parce que dès que vous adorez Dieu, vous reconnaissez, on adore Dieu en reconnaissant justement. Et ils sont tournés de cette manière, toujours vers le trône. Et par l'adoration, ces 24 vieillards sont responsables de toute l'humanité. C'est en adorant Dieu qu'on porte toute l'humanité et qu'on la remet à Dieu. C'est en adorant qu'on est médiateur au plan spirituel, pour tous ceux qui n'adorent pas. Et on offre toute l'humanité à Dieu. Donc, les 24 vieillards, ça joue un rôle très important. C'est l'humanité religieuse. C'est l'humanité qui reconnaît la dépendance totale à l'égard de Dieu. Et du trône, alors du trône, au-delà des vieillards, sortent trois grands aspects, qui est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est représenté par les éclairs, les voix, les tonnerres. Voilà l'Esprit Saint. Le fortitaire et le suavitaire. L'Esprit Saint agit avec force et l'Esprit avec suavité. C'est pour ça que c'est les éclairs, la voix. C'est la suavité de la voix et le tonnerre. Et tout ça sortant de la lumière. Et brûlant devant le trône, cette torche de feu. Donc c'est bien cette torche de feu. C'est les sept esprits de Dieu. Et les sept esprits de Dieu. Donc, ils sont trois et ils sont sept. C'est assez extraordinaire d'exprimer l'Esprit Saint par les trois effets et puis les sept esprits de Dieu. Et devant le trône, alors on ne dit pas tout autour, devant le trône, c'est autre chose. Tout autour, c'est les 24. Devant le trône. On ne dit pas sortant du trône. Mais devant le trône. Alors, c'est difficile d'exprimer ça, hein. Devant le trône, il faudrait un espace infini, il faudrait des dimensions infinies pour pouvoir représenter ça. Devant le trône, cette mer vitrifiée, semblable à du cristal. La mer vitrifiée, semblable à du cristal. Alors je crois que c'est l'Immaculée. La Vierge Immaculée. Et c'est pas étonnant, puisque le mystère des quatre vivants, qui est à la fois, qui sort du trône et qui est autour alors, il est autour comme les 24. Il assume les 24. Il sort et il assume les 24. Alors le mystère du Christ, c'est ici les quatre vivants. Ils sont quatre. Il sort du trône, il est au milieu et il vient autour du trône, les quatre vivants. Le mystère du Christ dépend de l'Esprit Saint et de Marie. Vous voyez cet ordre